Mardi 11 septembre 2012, bienvenue à cette première émission de la saison automne, hiver et printemps de l'aérospatiale. Julie Gagné qui est avec vous, un peu confuse parce que ça fait plus de 2 mois que j'avais pas pris le micro. C'est quasiment excitant. Je me sens comme la première fois que je faisais de la radio. Non, pas à ce point-là. Le stress en moins. Et aujourd'hui, pour la première émission, un menu encore une fois, comme à l'habitude, hein? Assez chargé, assez rythmé. On va discuter avec Catherine Boivin qui va nous présenter l'exposition Adversité d'Annie Baillargeon qui est présentée à Vue. Adam Bergeron, artiste performeur, viendra nous parler de la rencontre internationale d'art performance qui se terminera, qui a lieu jusqu'à dimanche prochain. On discutera aussi avec Jacinthe Carrier qui nous présentera son travail, son livre / exposition « Les Fortifiés » qui est présenté au Parc de l'Artillerie en collaboration avec Ex-Muro. Et puis, on recevra Raymond Poirier qui revient cette année pour la revue de presse. Bonjour, Raymond.
Bonjour, Julie. Et pour commencer l'année, on va parler notamment de petits éléments juridiques au Canada. Oh. J'en dis pas plus.
Tu piques ma curiosité. Et j'accueille aussi Simon Roy. Bonjour, Simon.
Bonjour, Julie.
Ça va bien?
Ben oui. Content. J'avais hâte.
Ben oui, moi aussi. Contente que tu sois de retour parmi nous également.
Ben oui, fait toujours plaisir.
Et là, est-ce que tu commences la saison en grande? Tu y vas plus relax?
Oui, j'y vais peut-être avec un plaisir coupable. C'est un artiste que je suis depuis un petit bout de temps. Puis je me disais toujours, il faut que je le fasse passer à l'aérospatiale. Puis je sais pas pourquoi, je n'osais pas. Puis j'ai décidé de me faire plaisir cette semaine. L'artiste vient de Baltimore aux États-Unis. C'est KJ House. On peut traduire en français peut-être avec « maison douteuse » ou « maison louche ». C'est un drôle d'énergumène. Il fait de la pop expérimentale. C'est surtout du collage sonore. Souvent, ça sonne vraiment cheap, genre Casio électronique avec les settings de base.
Est-ce c'est que c'est toujours... pour ça que c'est un plaisir coupable?
Ouais, je sais pas, parce que c'est ça, c'est un peu pop. Des fois, ça peut être vraiment, mais vraiment souffrant, vraiment mauvais. Mais en même temps, je peux pas m'empêcher, j'écoute toujours ses albums, puis je me dis que j'aime pas ça, mais dans le fond, je crois que j'adore ce qu'il fait.
Ah ouais, c'est ça, c'est juste que tu te l'admets pas.
Ouais, c'est ça, c'est toujours assez bordélique. Il y a une citation de l'artiste que j'adore, il dit « La façon la plus rapide de produire de la musique médiocre, c'est de procéder de façon ordonnée ». Ça en dit long un peu sur le personnage.
Oui, effectivement.
Donc, j'ai choisi 4 pièces de son album « Mostly I Like Everything ». C'est publié sur l'étiquette japonaise « Bumfoot », une étiquette qui a plus de 380 albums gratuits. Donc, lui, c'est un artiste qui est actif depuis 1999. Il y a déjà moins de 12 d'albums de produits sur différentes étiquettes, donc un artiste vraiment vraiment versatile. Donc, je peux faire découvrir ça aux auditeurs cette semaine.
Excellent. Donc, Simon, on en écoute 4 extraits de cet album-là. Puis sinon, toi, on t'écoute toujours le dimanche soir?
Oui, à Web Musique à 21h à tous les dimanches.
Excellent. Puis on n'oublie pas aussi qu'on a toujours notre blog sur le site laérospatiale.wordpress.com. Donc, les liens pour le téléchargement des pièces sera là. Vous aurez toutes les informations ainsi que ce qu'on trouvera dans la revue de presse de Raymond Poirier. Simon Roy, merci infiniment.
Plaisir.
Puis on s'en va tout de suite en pause audio, on écoute Hidden Carol and Blatant Conversation sur les ondes de CKRL. On vient d'entendre une pièce de KJ House de l'album Mostly I Like Everything. C'était un plaisir coupable de Simon Roy. Et je comprends tout à fait pourquoi c'est un plaisir coupable, parce que ça met de bonne humeur. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié la pause audio. Et là, ben, dans mon effervescence, je cède la parole à Raymond Poirier.
Et Julie, je t'avais parlé l'année dernière, en fait, d'une cause qui était devant jury, qui allait être devant juge. Donc, celle du regroupement des artistes en arts visuels et d'autres organismes contre le Musée des Beaux-Arts du Canada. Eh bien, la semaine dernière, il y a eu donc audience devant la Cour fédérale d'appel dans cette cause-là. Donc, les arguments des deux parties ont été présenté. Il y aura éventuellement décision. On vous tiendra évidemment au courant. Je rappelle un peu l'enjeu. Oui. C'est essentiellement donc que les artistes veulent maintenir le droit au regroupement et l'obligation même pour les musées de négocier avec les regroupements d'artistes pour établir des tarifs minimaux dans l'utilisation d'œuvres d'art déjà présente dans les collections des musées. Donc, l'idée que les musées n'ont pas le droit d'utiliser gratuitement des œuvres une fois qu'ils les ont achetées, mais il y a des droits à l'utilisation, outre les droits de l'achat initial et de la présentation initiale de ces œuvres-là. Donc, eux, ce qu'ils demandent, c'est le droit de négocier, l'obligation de négocier des tarifs minimums, avec évidemment de ces tarifs minimums-là la possibilité pour les artistes d'aller négocier d'autres tarifs, que ce soit supérieurs ou inférieurs, mais vraiment de donner une marge obligatoire là, minimale aux musées. Du côté du Musée des Beaux-Arts du Canada, ce qu'on dit, c'est qu'on veut plutôt négocier avec les artistes que négocier un tarif aussi minimum soit-il, constituerait donc une entorse au droit de chaque artiste de négocier de ses droits et de disposer de ses droits comme il l'entend. Donc, selon le regroupement des artistes en arts visuels du Québec, ça sous-tend ils veulent le donner gratuitement, ils le peuvent, tarif minimal, ben ça implique qu'il y aura nécessairement une demande financière. Donc, c'est un peu ça l'enjeu.
Mais oui, puis la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'un artiste va réellement refuser d'avoir un montant minimal?
Ben surtout considérant les investissements pour l'œuvre, qu'est-ce que l'œuvre représente, etc., etc. Ce qu'on dit du côté du regroupement des artistes, c'est que donc essentiellement, c'est une loi qui prévoit des mécanismes de représentation collective qui permet la négociation d'amélioration des conditions d'exercice des professions artistiques et donc de faire gagner, entre guillemets, de donner raison au Musée des Beaux-Arts du Canada, ben ça ouvre une brèche assez importante. Ils craignent évidemment là, qu'il y ait d'autres musées qui donnent suite à ce type de mesures, à ce type d'approche qui ne sont pas, selon eux, souhaitables.
Donc, c'est dans l'appel de dossier à suivre?
Exactement.
Rappelons qu'elle s'épaissit de semaine en semaine.
Comme d'habitude. Et sinon, du côté de Montréal, Biennale de Montréal, Claude Gosselin passe le flambeau, changement de garde. C'est ce qu'a annoncé donc il y a tout récemment, en fait, l'équipe de la Biennale. C'est une figure qu'on a eu l'occasion de découvrir à Québec lors de la dernière manif d'art, Nicole Gingras, qui va prendre la direction donc de la Biennale de Montréal. C'est une personnalité qui est bien connue du milieu des arts numériques et médiatiques. Elle a été commissaire de nombreuses expos, outre la manif d'art ici à Québec. Elle a été programmatrice depuis 2003 du Festival international des films sur l'art. Elle va poursuivre d'ailleurs au FIFA en plus de la Biennale de Montréal. Donc, ce sera intéressant de voir quelle influence aussi elle aura sur les orientations et le développement de cette manifestation artistique à Montréal au cours des prochaines années.
Ben oui, puis je pense que c'est au printemps, là, la Biennale, si je me trompe pas.
Exactement. Donc, est-ce que ce sera la dernière de M. Gosselin ou la première de Mme Gingras? Ça reste à voir également, là, évidemment. Sinon, je sais pas si tu te rappelles, Julie, l'année dernière, je t'avais parlé qu'il y avait une explosion au niveau des ventes d'œuvres d'art en Chine.
Oui,
l'art
oui.
chinois qui était de plus en plus en demande.
Le marché chinois, là, hyper effervescent. Puis...
Et qui dit effervescence, dit aussi profiter de l'effervescence.
Ben oui.
Et donc là, il y a un petit problème, en fait, qui menace, selon eux, selon certains experts, l'intégrité même des musées qui ont de l'art chinois. C'est qu'il y a eu une explosion aussi du nombre de faussaires et de fausses œuvres qui circulent.
Des fausses œuvres d'artistes connus, par exemple?
Non, d'artistes inconnus. En fait, on parle de céramique, d'œuvres plus traditionnelles.
Ah
donc,
ouais, okay.
Qui représentent
donc, on
n'est
pas dans l'art contemporain chinois,
non.
nécessairement.
Non, on est dans l'art chinois au sens très large. Et donc, des vases, des pièces de porcelaine, des artefacts. Donc, l'art un peu plus antique. Et bien, semble-t-il que les musées ici et ailleurs sont submergés de faux. Et donc, il y a plein de questionnements qui sont portés là, face à l'authentification et l'importation de ces œuvres-là.
Aïe, 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 j'imagine l'échelle l'ampleur de l'échelle d'enquête que ça va prendre. Hein? Incroyable.
Effectivement. Alors, ça aussi, c'est à voir et à suivre.
Mais ça.
Et sinon, deux petites vites en terminant. Premièrement, simplement pour vous rappeler que la Triennale Orange, l'événement d'art actuel de Saint-Hyacinthe, sera inauguré très prochainement. Là. C'est sous le thème « Les mangeurs » et ce thème-là sous-tend un autre thème, « La mort ». Alors, il y aura beaucoup d'artistes qui seront de passage à Saint-Hyacinthe pour l'occasion. On parle de près d'une vingtaine d'artistes. C'est donc piloté par le Centre Expression. On note notamment du côté artiste étranger la présence du français Abdessemed, dont les vidéos d'une simplicité désarmante peuvent susciter un grand émoi. On parle également du Canadien Michael Snow et de la jeune sensation de New York, Neyland Blake. Il y a des artistes également qu'on connaît bien ici à l'aérospatiale, notamment on pense à Doyon Demers, qui seront là. Ils vont présenter une installation, une espèce de laboratoire où se croisent christianisme et hindouisme avec également de la viande animale. Alors, ça va être assez particulier. Plusieurs autres artistes là, de Québec, de Montréal, de Toronto, qui seront de passage. Donc, ça, c'est à Saint-Hyacinthe. Et enfin, pour terminer, on a la date du Gala des arts visuels édition 2012. Et les catégories ont été, si tu me permets l'anglicisme, revampées, littéralement.
Pimpées,
mais modifiées, en fait. On a mis de côté, notamment, l'exposition Québec. Ça va être plus exposition Montréal, exposition hors Montréal. Sinon, on a modifié également certaines catégories. Exemple, au niveau des médias, on a mis de côté les blogs et autres. On a plutôt été avec meilleurs articles et meilleurs essais en art visuel, meilleures publications également au sens large. Et sinon, les prix pour institutions, galeries privées, centres d'artistes et autres reviendront cette année. Avec également des nouveaux partenaires et collaborateurs. Et côté artistique et animation, on a déjà annoncé la présence de Patrick Masbourian et de Pierre Lapointe à l'événement.
Puis est-ce qu'on sait quand est-ce qu'ils vont annoncer qui sont les nominés?
C'est à suivre, mais c'est pas encore spécifié.
Bon, de toute façon, tu vas nous le dire, Raymond, hein,
exactement.
Tu nous tiens au courant de tout ça.
Ben oui, on veut savoir, de toute façon.
Et Raymond, t'es un homme orchestre ici à CKRL. T'as plusieurs collaborations, mais notamment, tu fais ton émission vendredi, puis je pense que pour ta première, t'as une grosse émission.
Entrevue avec l'auteur Guy Delisle, un documentariste BD absolument génial qui a gagné à Angoulême. Il sera avec nous pendant environ une heure.
Environ
vendredi.
Une heure quand même, hein? Mm-hmm. Donc, à ne pas manquer, à 17h30.
Oui.
Ben, merci Raymond.
Ça fait plaisir.
Bonne semaine. On s'en va en pause audio. On écoute If We Can't Leave, We Can't Enter sur les ondes de CKRL. C'était If We Can't Leave, We Can't Enter, un extrait de l'album Mostly I Like Everything de KJ House, une suggestion de Simon Roy, d'ailleurs, que vous pouvez retrouver les liens là, pour le téléchargement sur le site l'aérospatiale.wordpress.com également. Toute l'émission sera diffusée en balado-diffusion. On se tourne maintenant vers le Vieux-Québec, en fait, dans un autre ordre d'idées. Vous savez, Ex-Muro est assez actif à Québec depuis 2 ans. Et cet été, ben, Ex-Muro a réalisé un projet avec Jacinthe Carrier, un projet qui s'appelle Les Fortifiés. Et Jacinthe Carrier est avec nous pour en parler. Bonjour.
Oui, allô.
Ça va bien?
Oui, très bien.
À la base, je pose vraiment la question de base. Les Fortifiés, c'est une collaboration entre toi, Exmuro, Parc Canada et Carrefour Jeunesse Emploi de la Capitale-Nationale. C'est quand même assez gros hein, comme collaboration. Est-ce que c'est possible peut-être de nous parler de la genèse un peu du projet?
Ben, c'est-à-dire que, oui, certainement, c'est Vincent Roy de Exmuro qui m'a communiqué justement parce que Parc Canada souhaitait faire un projet pour rassembler les jeunes autour de la question de la ville patrimoniale et des fortifications, de l'importance de cet espace-là à Québec, puis de voir, de réfléchir à notre perception de cet endroit-là. Et puis donc, comme il connaissait un peu mon travail de mise en scène, il s'est dit que ça pourrait être une façon de faire qui serait assez rassembleuse puis qui amènerait à réfléchir l'espace qu'est les fortifications, mais aussi comment on l'habite.
Oui, donc toute la portée symbolique aussi là, de ces fortifications-là, surtout à Québec, là, au Parc de l'Artillerie, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui y vont, autant des touristes que des gens de la place.
Oui, voilà. Puis donc, oui, on a beaucoup un rapport très touristique avec cet espace-là. Donc, le défi, c'était un peu de le visiter d'une façon peut-être plus personnelle ou comment nous, chaque, comme individus, mais comme aussi résidents de Québec, on peut prendre conscience de l'importance et de la beauté de ces espaces-là.
Allais-tu dire quelque chose? Que
non,
je
vas-y.
J'imagine aussi que ce projet-là, ben, comme tu disais, Vincent Roy a fait appel à toi. Tu sais, quand même, tu t'intéressais déjà à la base, au paysage urbain, rural, la manière de se le réapproprier. Donc, j'imagine que pour toi, ça a été quelque chose d'inspirant de travailler là-dessus.
Oui, complètement. Puis donc, souvent, je m'intéresse donc justement aux paysages que j'appelle cicatrices, des paysages qui sont plus en marge, qui sont plus abandonnés, qui ont plus une trace. Il y a toujours cette notion de trace et d'histoire dans les lieux qui m'intéressent. Donc là, de pouvoir travailler au sein de Québec, de ma ville, puis de vraiment y aller dans un côté peut-être plus historique, peut-être plus, personnel aussi, je trouvais ça très intéressant, puis très différent aussi. J'allais beaucoup dans l'idée de le mur comme un espace temporel qu'on pouvait revisiter. Donc, plusieurs strates, couches de temps qu'on pouvait réunir, rassembler pour raconter le lieu et pour l'habiter aussi.
Ben, dans le fond, c'est ça, c'est un sujet comme cela aussi impose l'idée d'un dialogue avec l'histoire. Ce que tu sembles quand même avoir fait, là, dans ton travail.
Oui, certainement. Puis c'est toujours quand même quelque chose d'assez présent, même dans les travaux antérieurs, cette idée-là de sortir d'une époque précise, d'un moment précis, mais de bien travailler dans une espèce d'amalgame de temps, autant passé que futur, puis de créer quelque chose finalement qui est hors du temps, puis qui fait plutôt référence à l'allégorie, par exemple, ou au récit, au mythe.
C'est ça, hein, parce que là, pour travailler là-dessus, j'ai envie de parler justement parce que tu as travaillé avec des jeunes du Carrefour Jeunesse Emploi de la Capitale. C'est vous qui les avez approchés? Comment ça a fonctionné pour le travail avec ces gens-là?
Donc, ben dans le fond, au départ, c'est ça, l'idée, c'était de travailler avec un groupe de jeunes. Et puis, bon, il est venu une idée du Carrefour Jeunesse Emploi et du projet qui s'appelle Jeunes en Action. Donc, c'est un groupe de jeunes qui sont invités, qui sont un peu pas en réinsertion, mais que c'est des jeunes qui tentent un peu de se réorienter et puis qui sont invités, bon, à faire des ateliers de toutes sortes. Et puis, on est allé présenter le projet à un groupe de jeunes en action et puis certains ont manifesté de l'intérêt pour ça. Donc, l'idée, c'est un peu de les mettre en contact avec qu'est-ce que ça peut vouloir dire, une pratique artistique professionnelle aussi. Donc, toutes les étapes, comment on arrive à construire un projet comme celui-là. Donc, ils ont été impliqués autant dans l'idée de conception, on a fait une visite avec les gens de Parc Canada, donc toute la recherche que ça pouvait impliquer, le magasinage, chercher des objets, les accessoires. Donc, on a comme tenté de vraiment les investir aussi sur qu'est-ce que ça peut vouloir dire, là, un projet comme celui-là, puis comment ça prend différentes aptitudes. Et puis, il y a eu aussi, finalement, là, ils ont posé, ils ont participé comme modèle, si on veut, là, au projet.
Puis comment as-tu trouvé, justement, le fait de travailler comme ça avec plusieurs jeunes, d'être un peu comme une formatrice aussi, dans un sens?
Mais pour moi, c'était comme une expérience nouvelle, mais qui m'intéressait beaucoup, parce que j'ai toujours travaillé un peu avec des gens de ma communauté ou des gens qui ont un certain rapport à l'art, que ce soit de la danse, de la performance, des choses comme ça. Donc, mais j'ai toujours eu un intérêt pour la notion de communauté ou un groupe distinct. Donc, je trouvais que d'aller là comme travailler avec des jeunes qui font partie d'un certain milieu, puis qui ont une certaine histoire, puis de vraiment les inviter à participer, ça l'amenait une autre touche, ça l'amène un autre... comment je dirais, un autre aspect de couche de lecture à l'image aussi. T'sais, ils ont leur propre bagage, puis ils créent des personnages qui, moi, m'ont beaucoup impressionné de les voir dans le contexte de la mise en scène, voir comment il y avait des choses à dire d'une certaine manière.
Puis est-ce que tu trouves que ça ajoute quand même une autre dimension à ton travail que tu aimerais peut-être réexploiter ultérieurement?
Ben oui, certainement. Comme j'en ai déjà parlé, le travail de Althea Thoburger qui travaille de cette façon-là, donc travailler avec un village en Italie, un petit village, ou avec des femmes militaires, ou avec certaines communautés très précises qui vont un peu travailler avec le sujet ou la substance de ces groupes, de ces communautés-là, voir qu'est-ce qu'ils peuvent raconter aussi avec dans l'espace des lieux. C'est quelque chose qui, oui, pourrait m'intéresser certainement. C'est sûr que le processus était différent parce que toute l'idée des impliqués, des invités, puis aussi de, comment je dirais, pas vulgariser, mais oui, expliquer un peu le processus. C'est un autre aspect que moi, j'avais jamais fait au départ, et puis ça a été, oui, très enrichissant. Puis je pense que ça donne un projet qui est peut-être un peu plus accessible que mes projets antérieurs d'une certaine manière, peut-être à cause de cet effort-là de rencontre en sortant un peu du milieu des arts, d'une certaine manière.
Puis,
je pense qu'il y a un peu le mandat d'Ex-Muro aussi, là, qui fonctionne bien.
Au départ, le projet Les Fortifiés, c'est un livre, hein?
Oui, c'était l'idée de faire un grand livre qu'on peut consulter. Donc, oui, il y a cette idée-là de récit, de narration, d'histoire aussi, je veux pas qu'il suit un peu le projet. Et puis, pour que les gens puissent vraiment le consulter, puis que ça fasse un objet aussi qui puisse circuler d'une manière un peu plus facile. Donc, pas nécessairement monter une grande exposition, mais d'avoir ce livre-là qui pourrait se promener peut-être éventuellement dans les bibliothèques, qui soit plus facile à consulter, mais qui ait aussi cette notion-là de récit. Qui est dans l'idée du livre.
Puis, est-ce que le livre est ou va être édité?
En ce moment, on a une édition de 1, en fait. Donc,
okay.
Je ne crois pas que ça va aller plus loin. En fait, pour le moment, on n'a pas cette option-là.
OK, puis ça, c'est le livre là, qu'on voit à l'exposition qui
oui.
est à l'intérieur de l'Arsenal,
oui.
au Parc de l'Artillerie.
Oui.
Peut-être que ce serait intéressant, bon, on parle un peu de tout ce qu'il y a autour de ce livre-là, autour de ce projet-là, mais moi, ce qui m'a marqué quand j'ai regardé, quand j'ai consulté le livre, c'est de voir le travail de mise en scène qu'il y a à l'intérieur de ce projet-là, qui est quand même très, très élaboré.
Mm-hmm. Ben, c'est-à-dire que moi, c'est vraiment... je pense que c'est de plus en plus en train de devenir mon médium. T'sais, oui, je suis photographe, je suis vidéaste, mais je fais des mises en scène. C'est vraiment ça qui est ma touche, qui est mon médium. C'est avec quoi je travaille. Je compose comme un peintre, compose sa palette. Ben, moi, je travaille avec différentes inspirations, différents objets, différentes époques pour essayer de construire quelque chose qui va raconter d'une certaine manière. La mise en scène, c'est beaucoup ça pour moi. Sans nécessairement être dans l'action, dans le texte, mais bien dans le visuel, dans l'image, comme la poésie pourrait fonctionner, mais j'assemble les différents symboles, les différentes textures, les différents objets, puis ça crée un récit, ça crée une histoire, puis ça crée une certaine poésie aussi.
D'ailleurs, il y a des objets qu'on retrouve, le plâtre, la farine,
oui.
Il y a des instruments de musique. J'imagine que ces objets-là ne sont pas choisis au hasard non plus. Ils ont sûrement une portée symbolique. Tu parlais tout
oui.
à l'heure d'allégorie.
Ben, c'est-à-dire que, par exemple, le plâtre, c'est quelque chose qui est un peu apparu dans l'idée d'artefacts ou dans l'idée de figer dans le temps. Des objets comme pour arrêter leur vieillissement ou pour un peu appuyer le temps ou de dire il y a plus de temps, cet objet-là, on l'a comme moulé, on l'a arrêté d'une certaine manière, tu sais. Puis de le rendre aussi d'une façon... Je travaille beaucoup avec les textures, c'est quelque chose que j'ai beaucoup d'intérêt à, je me rencontre autant dans les tissus que dans les objets, puis le plâtre a cette espèce d'effet poreux qui me faisait un peu écho au mur lui-même, au béton, à cette idée-là d'amasser, de raconter, je trouvais. Et puis, certainement, où les instruments de musique, bon, ben c'est toute l'idée de la culture. Ensuite, souvent, il y a plein de petits éléments. Bon, la farine, cette idée-là un peu plus alimentaire, le quotidien. Donc, c'est toujours un peu une certaine rencontre d'objets quotidiens, mais qui sont comme déplacés dans un autre système, puis qui peut être vu différemment.
Oui, c'est ça, dans un autre contexte aussi. Moi, je pense, par exemple, à la chaise qui est sur la table, carrément, une
mm-hmm.
lampe qui a pas d'abat-jour ou qui a pas de... qui a même pas de globe à l'intérieur. Il y a un côté, c'est ça, un côté un peu... je veux pas dire surréaliste, parce qu'on n'est
mm-hmm.
pas dans une scène surréaliste, mais il y a quelque chose de ça quand même.
Ben, c'est pas un mot que j'exclus quand je pense à mon travail. Je pense qu'il y a quelque chose qui, pour moi, dans l'espace des mises en scène, c'est qui me donne une très grande liberté de réinventer le monde comme on en a envie, ou d'une certaine manière, déjouer l'ordre établi des choses pour produire autre chose puis créer d'autres sens qui pourraient nous amener à voir les choses différemment. Donc, oui, jouer avec les objets quotidiens qu'on sait qu'une chaise, ça sert à s'asseoir, mais tout d'un coup, on la met ailleurs, puis ça devient un podium ou ça devient un espace que quelqu'un pourrait monter pour proclamer quelque chose. Ça devient sculptural, ça devient monumental. Tu sais, c'est un peu ça l'idée aussi de ces corps-là figés dans le plâtre ou dans l'idée des assemblages. On revient toujours à une certaine approche esthétique, artistique de la construction de la mise en scène.
Puis en même temps, on dirait que ces objets-là possède un caractère un peu rituel. Mm-hmm. Dans les photographies, moi, une autre chose qui m'a marquée aussi, c'est on a comme une espèce de... Pas une espèce, on a une impression de fête qui traverse les époques. Mm-hmm. Un côté un peu carnavalesque, mais pensif, nostalgique aussi.
Oui, effectivement. Probablement qu'il y a cette idée-là dans la rencontre des temps, dans la rencontre dans des objets qui vont pas dans d'époques différentes, qui vont pas d'époques qui vont ensemble. Mais effectivement, le festif un peu déchu, c'est quelque chose qui me plaît, qui m'interpelle aussi beaucoup, comment on se réunit, qu'on se rencontre dans la fête, mais aussi dans la mémoire de ça, dans comment la fête, c'est aussi la mémoire, puis se raconter, puis se rappeler. Donc, c'est un peu dans cette idée-là aussi, également.
Eh bien, Jacinthe Poirier, c'est tout le temps qu'on a. Carrier. Je suis en train de te nommer, de te donner le nom de famille d'un chroniqueur de l'émission.
Ah, voilà.
Donc, Jacinthe Carrier, merci beaucoup.
Ben, merci à toi.
Donc, c'est possible d'aller voir Les Fortifiés au Parc de l'Artillerie à l'intérieur de l'Arsenal. C'est présenté jusqu'au 8 octobre et cela se fait tout à fait gratuitement. Donc, on s'en va en pause et au retour, on discute avec Catherine Boivin.
C'est KRL.
À Québec.
Salut, c'est Tania. Demain, je vous invite à venir faire un tour pour la première de la saison de En direct du Sacrilège à compter de 17h30. Pour l'occasion, mes invités, Kit Kuna et Brigitte Saint-Aubin, vont nous présenter leur nouvel album. Yuki et Samy sera là du Festival de la musique sacrée. On parle de l'événement Pop-Up et directement de la Nouvelle-Écosse, Ian Foster sera avec nous en prestation. Un rendez-vous à ne pas manquer dès 17h30 au 447 rue Saint-Jean, le bar Le Sacrilège. Une présentation de Boréal.
La barberie. Parce que nous sommes différents.
Pale Ale, lime et framboise. Blanche ou mûre. India Pale Ale. Stout impérial.
La barberie. Parce que nous sommes différents.
Organisé pour la première fois à Granby, Québec et Dolbeau-Mistassini, Bouge pour la Croix-Rouge est un rendez-vous solidaire ayant pour objectif d'amasser des fonds permettant à la Croix-Rouge de poursuivre sa mission. Venir en aide aux sinistrés. Le 23 septembre prochain, en solo, en équipe, en famille, avec les amis et collègues de travail, vous êtes invités à courir, marcher ou rouler avec nous. 5, 10 ou 25 km sur la piste cyclable de la rivière Saint-Charles. Renseignements sur bougepourlacroixrouge.ca.
Pour que nos racines se prolongent dans le ciel de l'avenir, tous les mardis soirs à 19h. Pour que nos racines se prolongent dans le ciel de l'avenir, tous les mardis soirs à 19h. Au programme musique trad folk contemporain, blues de tous les temps pour votre plus grand agrément, en compagnie de Gilles Chaumel sur les ondes de CKRL.
Yo, yo, je kick des verses qui drop le shit, you know?
T'as rien compris? Il y a une application pour ça. Le Continental tous les matins, dès 7h.
Genre tellement.
Je t'aime.
Cette soirée vous est présentée grâce à la participation du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, 1049 3e avenue à Limoilou. Le Bal, 26 ans de Limoilou libre. Lebaldulézard.com.
Home.
Il est 18h, on entame la deuxième demi-heure de l'aérospatiale. Et pour entamer cette deuxième demi-heure, j'accueille avec moi Catherine Boivin. Bonjour Catherine.
Bonjour Julie.
T'as la chance de faire la première chronique de l'automne 2012.
Yeah!
Voilà, c'est tout.
Non, mais c'est excitant, c'est la rentrée, puis c'est juste ce privilège, ben tant mieux.
Puis t'avais le privilège, je sais, t'avais pratiquement l'embarras du choix pour les expositions, parce
exactement.
Que là, tout a commencé pratiquement en fin de semaine, puis notamment à Méduse, là, c'était la grosse effervescence, puis t'es allée faire un tour à vue.
Oui, je suis allée à vue, et puis séduction avec le travail, entre autres, de Annie Baillargeon. Dans la grande salle, et il y a aussi Normand Rajotte dans la salle plus basse aussi. Deux projets photos vraiment, vraiment emballants, vraiment intéressants. Moi, si je te dis Annie Baillargeon, ça évoque quoi pour toi, Julie?
Ben, ça évoque les fermières obsédées de base.
Donc,
tu parles de curriculum, là?
Ou des images qui pourraient venir pour illustrer.
Ben, à la fois un univers très, très... très intense. Puis en même temps, ben, je me rappelle de l'expo qu'elle avait faite chez Just Wants to be an Actress. Puis elle avait fait aussi la chambre à coucher à l'œil de poisson quand elle avait fêté leur anniversaire. Donc un côté aussi un peu noir, un peu sombre, cinéma d'horreur. Mais là, je sais que sa production en photo est assez loin de ça. Là.
Mais en fait, donc, tu évoques beaucoup le travail de performance, le travail avec les fermières obsédées.
Oui,
c'est vraiment des femmes là qui arrivent toujours avec des propositions, toujours très, très fortes, très engagées, avec un discours qu'on peut pas nier, là, un peu féministe. Et Annie, mais dans son travail photographique, travaille le corps féminin essentiellement. Corps féminin avec un traitement qui est toujours assez... Il y a une relation, moi, je trouve, de séduction, parce que c'est un travail très ornemental où le corps féminin est reproduit dans différentes formes, avec même des décors, des tissus. Puis, elle assemble donc des répétitions de souvent un même corps. Puis, ça fait une œuvre globale, un tout, hein, qui peut évoquer... parfois des œuvres plus abstraites, mais parfois aussi un réseau de sens quand même important.
Mais quand on regarde ces corps dans les photos, moi je trouve qu'il y a comme une vulnérabilité, puis une sensibilité, puis une violence aussi dans un sens qui est fait au corps. Je sais pas si...
Oui, le corps n'a jamais... Oui, ah, tout à fait. Le corps, c'est ça qui est spécial, parce qu'il y a la séduction, parce que c'est toujours un travail au niveau de la couleur. C'est souvent des fonds très noirs, le contraste est là. Et il y a un effet décoratif, parce qu'on dirait quasiment l'ensemble, souvent ça ressemble d'une dentelle, ou ça ressemble de... C'est attirant. Puis là, on se rapproche, et vraiment, là, on est confronté à des corps qui sont... peut-être disloqués, réassemblés par la magie de Photoshop, qui sont les cheveux ébouriffés. On voit rarement le visage, hein? C'est toujours dans l'anonyme, c'est vraiment le corps.
Ouais.
Et ça ajoute au malaise peut-être le fait de pas avoir le visage. Alors c'est une espèce de attirance et en même temps malaise, mais écoutez, moi je dirais que c'est l'attirance qui gagne parmi tout, parce que c'est toujours vraiment, il y a un travail au niveau peut-être de la séduction par la couleur, par la composition formelle.
Ah, puis les images sont très nettes aussi.
Oui,
là, ça, c'est
absolument,
assez,
c'est ça. Puis elle joue avec l'échelle, parce que des fois, ces corps, ils sont répétés, comme je dis, mais des fois, ils sont plus petits, plus grands. C'est peut-être des stratégies qu'elle va employer. Donc là, enfin, ce qui est intéressant, c'est que c'est une production qui est présentée chez Vue qui s'appelle « Adversité ». Qui a été conçu l'année dernière, donc ça date quand même de 2011, et il y a en tout, là, présentement, 12 photographies grand format, donc ça aussi, c'est quand même attirant. Et souvent, elle avait une tendance à travailler à partir des drapés, les corps sont enveloppés, il y a beaucoup des éléments de chair, on voit des jambes, des bras, des ventres peut-être, mais aussi des drapés, enfin. Et elle vient jouer avec des effets ben, ça fait des éléments de couleur, des éléments de texture et tout ça. Mais là, c'est les éléments de la nature. Donc, on est vraiment ici, vraiment, je dirais, il y a une relation directe avec les quatre éléments. Alors, on peut les nommer le feu, l'eau, la terre et l'air. Et on a comme, par exemple, je prendrais le premier volet de trois œuvres. Là, moi, j'ai commencé par l'eau.
Puis, ouais, c'est
on
ça,
a des corps,
c'est, en rentrant,
c'est ça. On a des corps, donc une espèce de disposé partout sur la surface. On a l'impression qu'il y a une espèce de combat avec l'eau parce que ça fait des vagues, des remous et tout ça.
Puis il y a des tissus, si je me trompe pas, aussi à l'intérieur de l'eau. Là.
Oui, les fameux tissus sont utilisés, mais ils sont là justement pour créer un effet de texture plus dans de surface, mais moins en lien avec le corps particulièrement directement. Mais il y a quand même un jeu, là, mais ils sont moins emballés. C'est un peu ça que je voulais dire, mais ces emballements sont quand même là. Et donc, là, il y a donc, visuellement, c'est des œuvres quand même très fortes. Là, on se rapproche, puis on voit ce corps qui est comme en train de se débattre dans cette eau, mais en même temps, il n'y a pas un effet de profondeur. T'sais, je te parle de l'eau, puis j'ai l'impression d'une vue en plongée, vraiment comme si ça avait été fait. On n'a pas de lieu de repère. Je peux pas dire c'est une piscine, c'est un lac, c'est la mer. C'est l'eau. C'est l'eau vraiment dans son sens.
C'est décontextualisé.
Tout à fait. Fait que c'est très, très efficace, très fort. Puis là, on se rapproche. Et je me suis amusée, je dirais qu'il y a un travail formel, là, splendide, un travail au niveau des couleurs, mais je me suis amusée à les lire en progression. Et je me suis fait une espèce de récit, une narration, pas tout à fait cousue, mais.
Plutôt instinctive,
ouais,
intuitive.
C'est que l'eau, c'est un élément qui est présent. Tous les personnages, ils ont quand même si on sort de l'élément eau pour rentrer dans l'élément feu, l'élément terre, peut-être l'élément terre, on a moins la présence de l'eau, mais souvent les personnages ont les pieds dans l'eau. Et elle travaille le thème du couple cette fois-ci. Alors, pas que le corps féminin, mais le corps... donc, elle met le couple dos à dos, face à face, puis elle fait des répétitions comme ça. Ce qui est intéressant avec ces répétitions, c'est que c'est pas toujours la même, on pourrait imaginer que c'est la même pose, mais il y a tout un travail aussi de spatialité dans ça. Et ces deux, ce corps, ils sont pas très heureux, on leur voit pas le visage, ils ont les cheveux dans le visage, ils ont le dos courbé. On n'est pas dans une relation de couple où on a l'impression que
C'est la joie et l'allégresse.
Oui, c'est ça. Et, mais toutefois, par contre...
Il y a une gravité, en fait.
Oui, puis là, il y a un tableau avec le feu. Mais là, on a... Le couple, en fait, se met à devenir des cracheurs de feu. Et le feu occupe, je dirais, plus que les trois quarts de la surface du tableau. Le feu devient un élément là, qui enrobe un peu ses corps. C'est assez fort, assez saisissant, toujours sur un fond noir aussi. Il y a des... En tout cas, visuellement, c'est très fort. Ensuite... On a un trio, encore une fois, trois œuvres qui traitent du feu. Et on a, sur le mur face à l'eau, on va traiter de la terre.
Ouais.
Et ça, c'est particulier. C'est les seuls formats qui ne sont pas rectangles, qui sont carrés. Et il y a un travail, je dirais... en tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait un travail formel. C'est les œuvres qui m'ont plu peut-être le plus d'avant... Le plus fortement pour le côté composition formelle.
Oui, oui, oui.
Et d'ailleurs, ils ont fait leur carton d'invitation vu avec cette image où on voit, dans le fond, une femme dans une robe bleue, donc qu'on répète partout de façon équilibrée sur la surface de l'image. Et cette femme tient une pelle. Et on a l'impression qu'elle se débat en creusant un trou. Mais
ouais,
on a l'impression
vrai, hein?
d'une fourmilière. Tu sais, c'est comme si dans le haut du tableau, elle était en haut, puis... Ça, on dirait qu'elle se creuse finalement des espèces de réseaux, là, mais enfin, elle se débat. C'est pas simple. Hein, c'est jamais, c'est toujours un tiraillement, un élément de conflit, peut-être d'où le titre là, aussi, adversité.
Mais il y a quelque chose aussi de très performatif, même vu dans sa présentation des photos. Met l'accent là-dessus. On sent tout à l'heure, tu parlais de narration. Moi, je la voyais à l'intérieur même des photos, la narration. Donc, les mouvements, les différentes étapes, on sent que c'est pas des pauses qui ont été prises, qui ont été détaillées. Les unes des autres. Là.
Non,
c'est toute la performance aussi, à la base même là, du
projet. Oui,
et
c'est tout à fait pertinent là, de parler de... En fait, on en parle de ça d'ailleurs, la dimension performative de ces poses-là, qui là, ils sont figées, mais qui sont en pleine action, mais arrêtées. Puis le côté décoratif, formaliste des œuvres là, qui jouent de contraste. C'est toujours des couleurs très, très accentuées, très vives, mais dans un, je dirais, limité, hein, comme... Mm-hmm. Brun, bleu, noir, blanc, gris.
Non, on n'est pas dans une palette, là.
Non, et puis, enfin, ce qui est plaisant avec son travail, je ne peux pas tout expliquer ici. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est allez-y, allez jouer avec ce réseau de sens, parce que dans le fond, on en fait une espèce de lecture personnelle où on évoque toutes sortes de situations, comme on dit, là, on se fait des récits. Il y a toute. Plusieurs allusions aussi, des symboles qui sont utilisés, je pense à l'œuvre là où elle est plus dans le ciel.
Ouais.
Tu sais, on évoque davantage l'air. Le ciel, c'est la seule où le fond est bleu, bleu, bleu. Partout sur la surface, il y a des petites formes blanches qu'on devine être des anges quand on regarde là de façon plus microscopique. Et à travers, donc... ce bleu et blanc, dans une espèce de all over bleu et blanc, il y a une ligne rouge qui traverse très vive, très forte, et sur cette ligne rouge, une femme en robe rouge. On aurait pu penser à un moment de paix, puis on atteint une espèce d'état plus paisible. Non, il y a un contraste, un tiraillement. Cette femme en robe rouge se verse un liquide dessus. C'est de la performance encore. Et on est dans un côté un petit peu plus trash, là. Alors,
ah ouais.
Il y a un côté ange et démon, là, qui est évoqué de façon comique, là, aussi. Puis, bon, ça peut être constitué presque la fin du parcours, mais... Enfin, ça revient en plus. Après la thématique de l'air, ça revient dans l'eau.
Oui, donc il y a quelque chose de cyclique.
Oui, aussi. Moi, j'avais comme l'impression exactement là, que ça pouvait faire justement une boucle qui se reprend, qui replie. En tout cas, j'ai trouvé ça, c'était du bonbon. Vraiment, c'est cet intérêt là, de rentrer dans l'œuvre, de le voir au niveau micro, puis de ressortir au niveau macro. C'est assez fort comme travail et c'est intéressant de voir vers où Annie Bayergeon s'en va, puis toujours en étant fidèle à son propre langage, mais elle trouve des stratégies autres là, avec ces éléments là, que sont assez intangibles, le feu, l'eau, les nuages et l'air.
Catherine, peut-être en terminant, tu disais que tu étais allée dans la petite galerie. Peux-tu juste nous dire quelques mots sur l'autre exposition?
Absolument. C'était Normand Rajotte qui nous propose donc des paysages. Donc, on est plus dans le corps comme tel. Mais ça, c'est intéressant parce que ce sont des paysages qui n'ont pas de ligne d'horizon. Ce sont comme des gros plans. Sur des éléments en fait qu'il va retrouver. Lui, il va prendre ses photos surtout dans le coin du Mont Mégantic. Il va travailler aussi comment le paysage est habité ou suggère une trace, parce qu'on va voir des traces des traces de vie, des traces d'humains, d'intervention humaine. Il y a une très belle photo où il y a une espèce de petit trou dans la boue, là, une espèce de rempli d'eau laiteuse, puis c'est rempli de petits états miniatures. Alors, c'est une promesse de vie dans ce petit trou-là. Donc, un regard très poétique sur la nature au lac Mégantic. D'un autre côté, il y a la mort aussi, parce qu'il y a une espèce de carcasse qui est représentée en décomposition. Mais j'ai trouvé que c'était aussi des images très, très fortes et aussi très séduisantes.
Et voilà, donc, bon début pour Vue Photo.
Oui, absolument. Allez-y.
Voilà, avec Catherine Boivin, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
On s'en va pas aujourd'hui, on écoute It Could Have Been a Cowboy sur les ondes de CKRL. Et voilà, c'était la pièce It Could Have Been a Cowboy de l'album Mostly I Like Everything de KJ House. Je répète, c'était une suggestion de Simon Roy. Vous écoutez toujours l'aérospatiale, Gilles Gagné, toujours avec vous, en compagnie de Jacques Gignac. Je devais recevoir l'artiste Adam Bergeron, mais il semble qu'il y a eu un contretemps et qu'il soit pas disponible pour venir nous voir. Il faut comprendre aussi que la rencontre internationale d'art performance bat son plein en ce moment. Et cet après-midi, il y avait une activité de médiation culturelle qui avait lieu au Jardin Saint-Roch. Ça s'appelait Génération Corruption, qui présentait des performances de 16 artistes de Québec qui avaient, je crois, chacun 15 minutes parmi eux. Il y avait notamment Adam Bergeron, Christian Messier et, bon, plusieurs autres personnes. Donc, peut-être cet événement-là n'est-il pas terminé. J'espère que ça a été une réussite. Je vous disais, la RIAP, en fait, Rencontre internationale d'art performance, on l'appelle souvent comme ça, on est à sa 17e édition quand même, et cette année, on a décidé de revisiter l'idée de travailler par pays, hein. C'est à la dernière édition de la Rencontre internationale d'art performance, on avait rassemblé les artistes par pays, et c'est ce qu'on a fait cette année dans la perspective de voir, mais est-ce qu'il n'y a pas des parentés entre les pratiques des artistes de ces différents pays-là? Est-ce qu'on peut pas faire des liens entre la situation politique des 10 pays et le travail des artistes? Donc, c'est ce que m'avait préalablement expliqué Richard Martel. Donc, la fin de semaine dernière, jeudi, vendredi et samedi dernier, il y a eu 3 soirées de performance qui étaient consacrées à l'art de, si je me trompe pas en ordre, je crois que c'était la Colombie, l'Uruguay et l'Espagne. C'était suivi dimanche d'une discussion qui devait porter sur la situation politique, justement, de ces pays-là en rapport avec la production des artistes. Puis, ben, aujourd'hui, comme je vous disais, il y avait les performances au Jardin Saint-Roch, et la Rencontre internationale d'art performance, quand même, se continue jeudi, vendredi et samedi prochain. Donc, si je me trompe pas en ordre, jeudi, c'est une soirée qui est consacrée à des artistes suisses. Puis vendredi, c'est une soirée qui est consacrée à des artistes vietnamiens. Et ça risque d'être assez particulier. Est-ce qu'il y aura choc culturel? Est-ce qu'on sentira vraiment un regard plus asiatique sur la chose? Et ce qui est dommage, c'est que samedi devait avoir lieu une soirée qui présentait le travail de 4 artistes de Birmanie, mais les artistes birmans se sont vus refuser un visa pour entrer au Canada par l'ambassade qui est située à Bangkok. Donc, imaginez les démarches, il n'y a pas d'ambassade canadienne en Birmanie. Les artistes ont dû se rendre là-bas pour se voir refuser le visa sous prétexte qu'il n'y avait pas d'emploi stable, qu'il n'y avait pas de famille, qu'il n'y avait pas de voiture, de maison ou de gros comptes en banque. Donc là, bien entendu, c'est toute une soirée qui tombe à l'eau, en plus que quand même, on attend ce type de soirée-là avec impatience. Qu'est-ce qui se passe en Birmanie? C'est un pays qui est quand même assez fermé. Donc, du côté de la RIAP, ce qu'on a décidé de faire, mais c'est tout simplement de présenter une soirée qui s'intitule « Birmanie, ouverture et ou tolérance ». Donc, on a demandé à des artistes de la RIAP de faire des performances. Donc, parmi les artistes, il y aura Nadia Granada, Sector Bardanka, Mariana Picard-Motusas, Julia Isabelle, Fernandez Sanchez, Alvaro Terones, Jesusa Del Bardo et Carlos Monroy. Donc, ce sera peut-être aussi l'occasion de voir des productions de ces artistes-là qui seront rassemblés, donc pas uniquement sous la bannière d'un pays. Donc, c'est quand même assez dommage, mais je suis quand même assez curieuse de voir qu'est-ce qui va se passer avec cette soirée-là. Cela dit, je pense que l'histoire des visas canadiens pour les artistes des pays émergents, c'est un dossier à suivre et c'est quelque chose d'assez problématique étant donné que le lieu a fait énormément d'efforts pour réussir à faire venir ces gens-là, a fait beaucoup de démarches auprès de l'ambassade. Je suis essoufflée, je ne sais pas pourquoi. J'irai peut-être en pause audio, le temps de respirer un peu, et on se retrouve tout de suite après. Voilà, sur ces paroles d'un homme qui s'extasiait devant la vie ou devant je ne sais quoi, se terminait la pièce Through Yonder Window. Donc, encore une fois, je répète, suggestion de Simon Roy. Il est 18h22 et l'émission L'Aérospatiale commence à tirer à sa fin, mais vous savez, c'est la première émission de la saison et la saison ne fait pas que commencer à s'éclairer. Elle commence aussi tout juste dans le milieu des arts visuels. La semaine dernière, c'était série de vernissages un petit peu partout. Mais il y a un vernissage qui n'a pas pu avoir lieu la semaine dernière. Il y a eu un contretemps à l'œil de poisson, une exposition qu'on attend quand même avec impatience, qui est celle de Yannick Pouliot. C'est le soliloque et le diplomate. Je dois avouer que j'ai quand même assez hâte de voir cette exposition-là, considérant qu'on nous parle d'une œuvre qui remplit complètement l'espace de la grande galerie de l'œil de poisson, très architecturale. Connaissant aussi le travail antérieur de Yannick Pouliot, qui a aussi une formation en ébénisterie, qui joue beaucoup à détourner les meubles de leur fonction, de faire des œuvres qui sont à la limite un peu absurdes. Donc, j'ai très, très hâte de voir ça. Donc, si vous ne pouviez pas être là la semaine dernière, ben tant mieux, parce que le vernissage de Yannick Pouliot aura lieu jeudi à 17h, en même temps que le vernissage de Richard Baillargeon. Richard Baillargeon qui expose Anticoste à la Galerie des arts visuels de l'Université Laval. D'ailleurs, si vous voulez rencontrer l'artiste, vous pouvez arriver dès 16h30 ce jeudi. Parallèlement, on est un petit peu loin de l'univers de l'art actuel, mais quand même, ça vaut vraiment la peine. Une grosse exposition en ce moment au Musée national des Beaux-Arts, qui est les arts en Nouvelle-France. Donc, pour une première fois, on a réussi vraiment à rassembler des œuvres de la Nouvelle-France, des œuvres de tous les horizons, que ce soit l'art mobilier, que ce soit l'orfèvrerie, que ce soit l'art religieux et tout ça. Et pour faire un événement avec ça, samedi prochain à 14h, il y aura une visite spéciale de l'exposition en compagnie de Laurier Lacroix, qui est co-commissaire de l'exposition et qui est aussi un professeur associé au département d'histoire de l'art de l'UQAM. Laurier Lacroix, pour l'avoir rencontré, je vous dis, c'est un homme, ma foi, fort fascinant et je vous recommande très fortement la visite en sa compagnie. C'est rare que je fais ça, mais j'ai envie de vous présenter peut-être quelques expositions que j'attends peut-être un peu plus avec impatience pour cet automne. Notamment, ben, il y en a qui sont commencés quand même, disons-le. Claire Annick, une artiste française qui présente Épuiser le métal à la galerie Engram. Catherine Plaisance, en ce moment, expose à la bande vidéo une œuvre qui s'appelle « Fragments d'un récit ». Donc, elle reprend son travail sur les maquettes, sur des situations où des mises en scène où on a l'impression qu'il y a eu soit un drame ou qu'il y a eu un événement d'une nature un peu mystérieuse qui a laissé des traces. Donc, un peu dans la lignée de ce qu'elle avait présenté à « Accident ». Je ne sais pas si vous vous rappelez d'Accident, qui était l'exposition satellite de la Manif d'art 5 qui portait sur la catastrophe, où là, elle avait fait des dioramas. Des dioramas, donc, dans des espèces d'aquariums où on reproduit habituellement soit un animal dans son habitat naturel, mais là, elle avait fait ces maquettes-là. Et ce qu'elle présente en ce moment, la bande vidéo, mais c'est un travail comme ça, quand même d'une assez grande ampleur sur les maquettes. Et on voit comme une espèce d'image en rotation qui raconte un peu le dénouement de cet événement-là. On voit une voiture qui est ensevelie sous des branches, une balançoire qui est tombée sur le côté, une maison qui apparaît et qui disparaît, donc une corde à linge avec des vêtements, une plante, une fleur qui est ensevelie. Et ça nous fait vraiment poser des questions à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et on peut reconstruire un peu la narration tout au long des 10 minutes de la vidéo. C'est quand même assez intéressant. Sur ce, l'émission tire réellement à sa fin. Encore bien d'autres choses à parler tout au long de la saison. Ça me fait plaisir d'être avec vous, d'être de retour. J'avoue qu'après 2 mois d'absence, j'avais bien hâte de reprendre le micro. Et parlant de reprendre le micro, ben, je le cède très, très bientôt à Gilles Chaumel, qui lui aussi commence sa saison avec Folk d'Amérique. Donc, je remercie mes invités, mes collaborateurs et Jacques Gignac. Et je vous souhaite une très, très belle semaine.